Nous voici à la librairie Terre de Légende, librairie spécialisée en bande dessinée, en compagnie de deux libraires sur trois. Il en manque un qui doit être en vacances. Donc bonjour Jean-Pascal et Johan, merci de m'accueillir en ce matin pluvieux pour l'émission Une saison en librairie. Alors, pour situer nos auditeurs, nous sommes au numéro 44 de la rue Gambetta, donc à côté du Capitole, pas bien loin de la Dorade, et la boutique fait l'angle avec la rue des Gestes, ce qui permet une vitrine assez conséquente, une grande visibilité depuis l'extérieur. C'est royal comme emplacement.
C'est royal, d'autant plus que nous n'avions absolument pas cet emplacement autrefois. On l'a depuis 14 ans maintenant, on est là. Et oui, on ne peut pas trop nous rater. Il y a quatre axes de circulation pour les gens. Et quoi qu'il arrive, ils arrivent chez nous.
Et donc la librairie n'a pas toujours été ici?
Oui, nous étions à une cinquantaine de mètres, un peu plus en amont de la rue, un peu plus vers la Dorade, dans un tout petit local sans réserve, avec très peu de vitrines, et qui faisait à peu près la moitié de la taille. Voilà.
Et donc là, Terre de Légende, ça s'appelait déjà Terre de Légende ?
Ça s'appelait Terre de Légende, oui.
Donc c'est une librairie qui a combien d'années ?
On a bientôt 19 ans, donc l'an prochain on fêtera les 20 ans de la librairie.
D'accord, donc un anniversaire.
Et les 10 ans de Johan dans la librairie aussi.
Ah d'accord, ok, très bien. Parce que du coup, toi Jean-Pascal, t'es là depuis combien de temps ?
Depuis le démarrage. En fait, la librairie est née fin 1997, on l'a ouverte en octobre. Et elle est née d'une discussion sur le bord du comptoir de la librairie où je bossais au démarrage, qui s'appelait Fin de siècle, qui était rue du Thor, un autre axe qui donne sur le Capitole, et qui a fermé tout simplement parce que mon ancien patron avait décidé de passer à autre chose de plus lucratif que la librairie. Donc du coup, fermeture au début juillet 1997, et il y a un client qui était devenu un pote, qui m'a dit « Banco, j'ai un peu de sous, si tu veux, on rouvre une autre librairie derrière. » Voilà.
D'accord.
Ça s'est fait en 3 mois.
Ah ouais. D'accord, très bien. Et on va parler un peu de vos clients. Donc j'ai pu remarquer qu'ici, les gens quand ils rentrent, c'est toujours on fait des bisous en fait ici, j'ai l'impression. Donc voilà, cet été, si vous voulez des bisous, venez à Terre de Légende acheter des livres, vous allez voir, vous serez très très bien reçus. Mais c'est vrai que vous avez un public que vous connaissez bien.
Oui, c'est vrai. Et puis, une fois de plus, je pense que les gens sont attachés à l'idée que lorsqu'ils viennent, ils font le choix de venir en librairie, ou en tous les cas, nous, on fait le choix de leur faire découvrir ce mode de fonctionnement. Ils viennent pour échanger, pour vivre un moment particulier avec nous, et pas simplement pour remplir une poche de bouquins. Voilà, on aime bien qu'ils passent. Il y en a beaucoup qui passent, qui restent là une heure, 2 heures, qui viennent prendre le café le samedi matin avec nous. Il y a des réguliers et ils ne viennent pas forcément pour acheter à chaque fois. C'est pas ce qu'on leur demande dans tous les cas.
Et donc moi j'ai entendu dire aussi qu'à Toulouse il y avait beaucoup d'auteurs de bandes dessinées.
Oui, il y en a beaucoup. Alors pour les retrouver, il y en a certains qui sont réunis dans des ateliers d'auteurs. Certains qui sont assez anciens. Je pense à l'Aquarium qui a peut-être l'âge de la librairie maintenant. si ouais, c'est pas...
Presque.
Voilà. Et il y a beaucoup d'auteurs aussi qui, on ne le sait pas trop, mais qui travaillent chez eux, donc en atelier, ou qui sont dans la région toulousaine, donc dans la banlieue, pas très très éloignée, mais il y a, je ne sais pas combien on pourra en compter, parce que je pense qu'il y en a plein qu'on ne connaît pas non plus, et qui travaillent ici, mais voilà, sans spécialement communiquer, voilà.
Moi, je sais pas qu'il y en a entre 60 et 100. Auteur sur la région très proche de Toulouse.
C'est pratique ça pour des libraires. Du coup, c'est des clients aussi à vous ou pas ?
Il y en a pas mal qui sont clients chez nous. Oui.
Parce qu'on peut aussi parler du logo de la librairie.
Oui. Alors le logo a été fait par quelqu'un qui était un ami d'abord de la librairie avant tout. C'est quelqu'un qui nous a quittés l'année passée, c'est Coyote, le dessinateur de Little Kevin, qui était vraiment un grand ami de Fabrice, de Johan, de moi, dans notre vie intime, on va dire, et qui nous avait fait ça pour nous ajouter un plus au niveau de l'identité de la librairie. Et c'est lui qui avait choisi la façon dont il nous voyait. Donc il avait choisi Don Quichotte et Sancho Panza pour mais de manière déformée, évidemment. Voilà.
Qui viennent bousculer la typographie de Terre de Légende.
Ouais.
Voilà.
On n'espère pas que la typographie.
Ouais. Et donc c'est vrai que voilà, là on est dans une librairie indépendante, spécialisée bande dessinée. C'est vraiment un commerce de proximité. Là, on est dans une vie de quartier aussi. La librairie, elle s'inscrit vraiment dans une vie de quartier où Coyote, qui a dessiné le logo, ben, il était toujours tanké il n'y a pas si longtemps, pas loin, au bar de l'impro. Voilà, il y a vraiment une émulsion autour de chez vous.
Moi, il m'arrive encore de regarder par la porte, par réflexe, de regarder la terrasse du café en face pour voir s'il est là le matin. Donc oui. Mais moi, je vis dans le quartier depuis que je suis étudiant, en fait. J'y vivais là, j'y vivais quand je bossais à fin de siècle. Et c'est le seul axe autour de la place du Capitole, hyper centre de Toulouse, où on a vraiment l'impression d'être encore dans une vie de quartier, au sens classique du terme, au sens village. Même si... En 20-25 ans que moi j'ai connu cet endroit-là, il y a des tout petits commerces qui ont disparu, plus des spécialisés. C'est-à-dire, on parle des librairies parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de librairies dans le quartier aussi. Mais autrefois, il y avait un boucher, il y avait un pressing. Ces choses-là ont disparu en revanche. C'est beaucoup plus compliqué.
Alors pour nos auditeurs, pour décrire un petit peu la librairie, c'est un espace de combien de mètres carrés?
Alors, il y a 58 mètres carrés de surface de vente, avec une réserve en sous-sol qui fait quasiment autant, un bureau qui fait environ ouais, 8 mètres carrés, et on a 3 mètres 50 de vitrine sur chaque rue, parce qu'en fait, on fait l'angle avec la rue Gambetta et la rue des Gestes. Voilà, pour la surface de vente, qui est organisée en fait. Alors, tous les murs sont couverts. On a des
Jusqu'au plafond.
meubles jusqu'au plafond, voilà. Du sol au plafond, il y a des bandes dessinées.
Oui, il y a des livres par terre, hein, il faut le dire quand
Tout à
même.
fait.
Ah, il y a même des tiroirs, hein, par terre.
Ah, on a fait un choix aussi, enfin, ça c'est depuis l'origine, parce qu'avant, Terre de Légende faisait à la fois de l'occasion et du neuf. Donc, les bacs au centre, si je ne me trompe pas, c'était tout ce qui concernait l'occasion. Et tous les meubles autour, en fait, sur les murs, c'était le neuf. Maintenant, depuis 2006,
2006, ouais, 2006
ouais.
parce que c'est tout doit être de décembre 2005 où on a eu un gros souci et un énorme dégât des eaux qui a noyé la réserve. Et en fait, on se posait beaucoup les questions parce qu'on bossait pas bien finalement le neuf, pas bien les éditions anciennes et l'occasion parce que tout se développait et qu'on avait de la place pour rien. Bah, les questions, on a fini de se les poser après le dégât des eaux. Parce qu'il aurait fallu remonter des collections complètes d'occases, etc. Pareil, on avait un petit peu de produits dérivés, ce qui est quand même quelque chose de très spécifique à l'univers de la bande dessinée, tout ce qui est figurines, posters. Toutes les réserves sont parties à l'eau aussi. Donc on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? On recommande des figurines, on recommande ceci, cela, on repart en quête de collections d'occases pour redémarrer un rayon, ou alors on s'attache à ce qui nous intéresse nous et ce qui nous a de plus en plus intéressé au fil des années, c'est-à-dire ce qui est le cœur du métier, c'est-à-dire le livre, puis travailler les fonds éditoriaux, mettre en avant les auteurs. Donc voilà, on a chut.
Et donc ça, le dégât des eaux, c'était en
2005.
Et à partir de là, du coup, vous êtes parti sur un petit peu un nouveau projet, quoi.
Ah oui, c'est clair, là, enfin, très clairement, ça a évolué là-dessus. Parce qu'au démarrage, on s'était axé sur le modèle de la librairie fin de siècle d'où j'étais issu. Et en fait, c'est vrai que le neuf n'était pas prépondérant dedans. On avait vraiment une librairie pour collectionneurs.
Et donc là, aujourd'hui, c'est que du neuf. Et donc effectivement, là, quand on... Les étagères sont très belles. Hein. Là, on est dans un... Non, mais c'est vrai. Vous
Alors,
avez...
il faut le dire, c'est quand même tout fait sur mesure, au millimètre près, par un monsieur qui est extrêmement talentueux, qui nous a fait aussi la superbe porte qu'on a, qui est quand même monstrueuse. Et qui est une porte en chêne massif avec une grande vitre qui donne l'impression en fait que la librairie se projette dans la rue. Et ce monsieur qui est menuisier, entre autres, puisqu'il est aussi électricien, serrurier, enfin, il est impressionnant, nous a fait les meubles après que nous ayons passé 2 ans. Et on va rendre à César ce qui est à César. Fabrice a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé en amont. Sur le design des meubles,
Oui,
puis,
sûrement.
Puis nous, on était là pour pondérer ce qui nous allait ou ce qui nous allait pas. Après, on s'est tous mis à bosser. On a même aidé à la menuiserie. Ça a été vraiment un moment super chouette. Et du coup, tout est fait sur mesure.
Ouais. Ouais, ça donne quelque chose de, ouais, de vraiment très beau, avec justement, effectivement, au centre de la librairie, des bacs. Et c'est vrai que ça se voit que c'est fait sur mesure. Et puis, donc, des tiroirs en dessous avec les réserves.
Ouais, en fait, c'est même des placards. Je garde le tiroir en tête parce qu'autrefois, c'est vrai qu'on avait des tiroirs au niveau des anciens meubles. Là, désormais, ce sont des... Oui, alors, de la réserve, il y en a techniquement partout. La librairie, je pense qu'on peut se targuer d'avoir en moyenne... à l'année, 15 000 références différentes sur 58 mètres carrés.
D'accord.
Voilà, ce qui est vraiment pas mal, au point que, sans faire de fausse modestie, on a même un des plus gros éditeurs de BD national qui est venu en personne avec son assistante voir comment on arrivait à faire le chiffre d'affaires qu'on fait avec 58 mètres carrés, avec le nombre de références qu'on avait, pour comprendre.
On peut savoir qui c'est ou pas ?
Oui, c'est Monsieur Guy Delcourt.
D'accord, ok. Et alors du coup, l'espace, comment il est rangé un peu, Johan ?
Alors justement, pour les bacs où il y avait l'occasion avant, il y a le choix de mettre les auteurs de bande dessinée classique reconnus, et il y a aussi quelques choix personnels. Enfin, beaucoup d'ailleurs, pas mal de choix personnels. Voilà pour ce qui est un peu du centre. On a aussi, enfin, avec les nouveaux meubles, mis des descentes. Comme ça, on peut remettre la nouveauté encore un peu en avant, ou faire des sélections, comme dans les librairies, on va dire, généralistes. Il y a souvent des tables thématiques. On essaie de refaire la même chose, en fait, un peu en bande dessinée, même si c'est parfois un peu compliqué avec la masse qui arrive, qui sort régulièrement. Ensuite, en fait, on a découpé en type, en genre, c'est-à-dire, il y a le franco-belge, ce qu'on appelle le franco-belge, ça va réunir toute la bande dessinée européenne, de manière assez générale, parce qu'après là aussi on a fait des choix à l'intérieur de collections, ouais. Certains éditeurs ont fait des collections bien marquées, donc on en profite, on les met en avant.
Ouais, voilà.
Mais c'est intéressant de voir comment on range une bibliothèque, parce qu'après chacun, chaque lecteur chez lui-même sait comment ranger ses livres, etc., ou se pose en tout cas un jour la question et se dit tiens, mais et comment font les libraires, quoi, effectivement. Donc il y a la BD franco-belge au milieu du coup des bandes dessinées de référence, on va dire, et puis des choix de libraires.
Et ensuite, bon, après là on a fait une partie jeunesse au fond de la librairie, une partie comics et manga. Après, c'est intéressant la question du rangement, parce que je pense qu'on se la pose et on se la repose régulièrement. S'il y a des changements dans le classement, on a essayé un peu tout. Rangement par éditeur, rangement par auteur, rangement par titre d'album, donc ordre alphabétique d'album, ce qu'on a mis en place maintenant, qui est sans doute le plus pratique pour nous et pour la clientèle. Voilà, après, c'est toujours compliqué, hein, parce qu'il y a des formats totalement disparates et de plus en plus maintenant. Donc, pour avoir une. Avant, il y avait une unité avec les formats franco-belges hyper classiques, on pouvait faire ça par éditeur ou collection, ça passait assez facilement. Maintenant, c'est plus à l'ordre du jour. On n'a pas fait qu'il y a beaucoup de collègues en librairie spécialisée qui font des classements par genre, ce qu'on trouve assez ardu, assez compliqué, parce qu'il y a beaucoup de bandes dessinées. Qui vont mélanger justement science-fiction, thriller, histoire. Donc ça, on a essayé d'éviter, parce que je pense qu'on ne s'y retrouverait pas nous non plus. on hésiterait toujours à mettre dans un genre ou dans l'autre. En fait, on n'essaie pas de faire vraiment de classification.
Et puis par genre, je pense qu'il faudrait beaucoup plus de surface, en fait, pour qu'on soit à l'aise. Ça demanderait vraiment d'avoir des pôles qui soient vraiment beaucoup plus fragmentés. Donc l'espace que ça demanderait serait beaucoup plus conséquent. Voilà.
Vous avez quand même la place de faire pas mal de ce qu'on appelle du facing. Donc on voit la face du livre. Donc à côté de la caisse, là, il y a un mur entier avec donc, du coup, des livres que vous aimez. Et il y a effectivement les coups de cœur aussi. Il faut en parler, les coups de cœur de Terre de Légende. Alors sur les coups de cœur de Terre de Légende, il y a écrit « Miam Miam ».
Ou ça tabasse.
Ou ça tabasse, d'accord. Donc ils sont pas utilisés au même moment.
C'est vrai, ils sont plus rares, en fait. Miam Miam, c'est pour ce qu'on a beaucoup aimé, voilà, les bonnes bandes dessinées qu'on conseille. Et Satabas, c'est vraiment le coup de cœur du mois. Alors, on en retrouve un par, même pas par mois en fait, hein. Tous les 2-3 mois. Donc, c'est rare, mais ça vaut le coup justement. Quand Satabas, c'est limite l'indispensable de la librairie.
La crème de la crème, quoi.
Je pense qu'il y en a un juste à sa droite.
Voilà. Ah, voyons, c'est quoi?
La maison de Paco Roca, aux éditions Delcourt.
Donc ça tabasse alors.
Ça tabasse, oui.
On va peut-être envoyer un premier morceau de musique. On va passer à la deuxième partie de l'émission et du coup on va parler de vous, les libraires, les maîtres des lieux. Donc vous êtes trois libraires, là j'en ai que deux en face de moi, mais qu'est-ce qui vous a amené tous les trois à faire ce drôle de métier? Alors Jean-Pascal, tu commences?
Alors je pense que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Fabrice et moi on est de la même génération, Johan est de la génération suivante, et que du coup ça change un peu la donne. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui vont acquérir des librairies de bande dessinée pour se faire plaisir, parce qu'ils ont des sous. Nous, on fait partie d'une génération, je pense, qui était plutôt autodidacte et qui n'avait pas beaucoup de sous. Donc, on a galéré quand on a ouvert, et surtout, on avait des parcours qui ne nous préparaient absolument pas à la librairie. Alors que Johan, en revanche, lui, a travaillé pour cela.
T'as fait du coup un cursus universitaire pour travailler dans ces métiers?
Tout à fait, ouais. J'ai fait commencer par un DUT en métier du livre, parce que les formations de DUT, il n'y avait pas beaucoup en France encore. D'ailleurs, celle que j'ai fait, le DUT en 2 ans, c'était plutôt axé bibliothèque, ou uniquement bibliothèque, même s'il y avait une introduction à la librairie. Et après, j'ai fait une licence pro en alternance, enfin en apprentissage, à Terre de Légende. Et j'y suis resté du coup.
Voilà. Et ça fait 10 ans que t'es là.
Et ça fait 10 ans, ouais, voilà, comme ça quoi, c'est, c'est compliqué de s'échapper, ou on y prend goût surtout.
Et du coup, comment on devient libraire alors ? On est entouré de livres depuis notre plus tendre enfance ou
Alors moi c'est très simple, pour ma part je vais dire oui. En l'occurrence, j'avais la chance d'avoir deux parents qui ne disaient absolument pas les mêmes choses. Donc ma mère, sa table de chevet, généralement, elle était recouverte de littérature policière et fantastique. Et de l'autre côté, mon père s'accroulait, mais pas que... On ne voyait pas la table de chevet, mais on ne voyait pas le sol non plus. Et lui passait son temps à acheter de la bande dessinée. Donc j'allais d'un côté du lit à l'autre, et voilà. Donc oui, ouais, moi j'ai baigné effectivement dans le bouquin, même si j'ai absolument pas fait d'études pour ça. Je m'étais pas projeté dans le métier de libraire au démarrage. Moi j'ai un diplôme de collaborateur d'architecte. Alors certes, on est dans du DSM, mais quand même extrêmement éloigné, puisqu'on parle de plan de baraque. Et puis après, j'ai fini mes études sur des sciences économiques. Voilà. Ce qui, au passage, au niveau terrain, ne sert strictement à rien pour ce qui est de gérer une librairie. Hein. Mais il s'avère que par le biais, le hasard des rencontres, j'ai commencé en fait mes premiers boulots, ça a été traducteur et auteur dans le milieu du jeu de rôle. Et que ce faisant, j'avais cherché quand même pas mal de doc en librairie. Et entre autres, à l'époque, à deux librairies, dont celle où j'ai bossé plus tard, fin de siècle, et puis à Bédessiné, où il y avait aussi un gros rayon SF, en plus de la bande dessinée. Ce qui fait que, lorsque je me suis aperçu que vivre de contrat en freelance, en tant qu'auteur-traducteur, j'allais pas manger tous les mois, j'ai posé des CV, et un an après, le hasard a voulu que sur un remplacement de maternité, je suis rentré à FENSEC, et puis j'y suis resté, puisque c'est même moi qui ai fait la fermeture de la librairie ensuite. Voilà.
Et puis après, du coup, le projet de ta propre librairie...
Voilà, le projet a été monté, comme j'expliquais un peu plus tôt, sur le bord du comptoir. Vraiment, ça a été ça, entre midi et deux, tac. C'est parti comme ça, le samedi, le pote en question, qui s'appelle Eric, est repassé, et puis... On a enchaîné, on a discuté avec mon ancien patron et ça s'est fait en 3 mois. Trouver un local, organiser la fermeture de la librairie, sa liquidation, récupérer ce qu'il fallait des stocks, remonter des comptes auprès des fournisseurs, faire des travaux dans le local qu'on avait trouvé, voilà. Et puis, un an après, Fabrice nous a rejoints. Et Fabrice travaillait en librairie, déjà. Il travaillait à Bédessiné. Voilà, donc c'était un peu les deux sœurs ennemies en bande dessinée à l'époque, fin de siècle et Bédessiné. Et lui venait de terminer son contrat de 2 ans là-bas, donc du coup on se connaissait déjà. On se croisait déjà dans le milieu, donc ça avait accroché. Et bien il a rejoint l'équipe, ce qui fait qu'on était à deux, parce que la première année et demie d'ouverture de la librairie a été très très longue. Comme on disait, on faisait de l'occasion autrefois. Donc on faisait le marché aux puces aussi le dimanche, ce qui fait que la semaine commençait à 8h le lundi et finissait vers 15h le dimanche.
Voilà. D'accord, très bien. Et du coup, t'étais tout seul là ?
Ouais, j'étais tout seul.
Purée. Bon, et toi du coup, Johan, t'aurais toujours été, enfin, tu te vois pas autre que libraire ?
Bon, actuellement, je pourrais pas dire, mais ouais, c'est vrai que c'est un milieu où on s'y sent bien en fait. Où il y a un rythme, en tout cas à Terre de Légende, de travail qui fonctionne bien, enfin qui est agréable et où on est toujours content en fait d'aller travailler. Après, c'est vrai que j'ai un peu un parcours différent parce que ce sont des passionnés qui n'avaient pas de formation. Moi, c'est un peu le contraire finalement, parce que j'étais pas spécialement amateur de bande dessinée avant de travailler à Terre de Légende, voire j'y connaissais que le journal de Spirou, on va dire, et ce qu'il y avait à l'intérieur. Et c'était juste, je me suis posé la question avant de faire mon DUT, un endroit où je serais à l'aise pour travailler et rester des années. Du coup, comme je passais beaucoup de temps à faire en bibliothèque ou au milieu des livres, ça m'a paru évident. Du coup, voilà, j'y suis resté. J'ai surtout découvert un tout autre monde de la bande dessinée. Donc, je ne lisais pas de manga, je ne lisais pas de comics, je ne lisais pas de la bande dessinée autre que, on va dire, le grand public franco-belge. Et j'ai découvert une variété assez folle, justement, de ce qu'on peut trouver à la nuit de la bande dessinée.
On parlait des rayonnages tout à l'heure. il y a quand même un endroit où on a beaucoup d'éditions dites entre guillemets alternatives, des éditeurs avec des titres un peu plus exigeants, moins connus du grand public, mais aussi beaucoup de micro-éditions, d'auto-éditions. On fait beaucoup de dépôts-ventes auprès des petites structures ou des auteurs auto-édités. Et pour quelqu'un qui venait pas du tout de la bande dessinée, enfin, Johan, il tient à bout de bras ce rayon-là de manière assez impressionnante. Voilà. Et en tous les cas, moi, mon sentiment, c'est que quand les gens rentrent, moi, je lis de la bande dessinée depuis presque 40 ans. Lui, ça fait 10 ans qu'il y a à fond de la bande dessinée. Et je pense que les gens ne voient pas la différence.
Et du coup, oui, vous êtes trois à travailler ici. Ouais. Comment ça se passe, le travail à trois? Vous n'avez pas forcément les mêmes goûts en bande dessinée. Vous êtes peut-être un peu... Heureusement, ouais, comme ça, vous pouvez faire des conseils différents. Vous conseillez vous-même entre vous.
Oui. C'est ce qu'on fait, généralement le matin, un peu avant l'ouverture, on échange sur ce que chacun a lu en disant « Ouais, ben ça c'est bon, hein, tu peux laisser tomber. » Au vu de la pléthore de titres qui sort, en plus, tant mieux, si on n'est pas obligé de lire certaines choses tous les trois. Mais oui, généralement, on échange beaucoup au fil de l'eau sur ce qu'on a lu, sur ce qui est vraiment intéressant de lire, ou tout simplement sur des choses que les autres n'auront pas forcément envie de lire pour des questions d'affinité ou graphique ou stylistique. Mais c'est important qu'ils sachent que c'est de la qualité, qu'on peut vraiment en parler aussi.
Et oui, parce que dans une librairie généraliste, on va dire que les postes des libraires vont s'attacher à chacun un rayon. Ici, on est dans une librairie spécialisée. Du coup, comme vous êtes trois, vous avez la chance de pouvoir vous mettre dans des thématiques chacun qui vous plaisent plus que d'autres.
Alors c'est vrai, mais en même temps, les gens attendent, quand ils rentrent, quand ils passent la porte, ils attendent que ce soit de Johan, Fabrice ou moi, qu'on soit capable de leur parler à peu près de tout. Même s'il y a des choses qui sont rédhibitoires pour certaines d'entre nous. Voilà, on est censé... On a fait le choix d'être vraiment pluridisciplinaire et de s'attacher à ce qu'on connaisse notre sujet à peu près sur le bout des doigts, autant que faire se peut, évidemment. Mais
du coup, cette profession, elle pose question avec l'arrivée du numérique. Enfin, on en a vraiment beaucoup parlé. Mais le numérique en BD, qu'est-ce que vous avez à en dire?
Ce qu'on a à en dire, c'est que pour l'instant, je crois qu'on est un peu tous les trois à la fois réfractaires, même si on suit un peu l'évolution. Je pense pas, en fait, qu'on y voit une menace, même le numérique, enfin, même de manière générale, même pour les... en général sur le livre, ça va prendre une part de marché, mais sans détruire l'objet physique du bouquin, en fait. Alors, pour ce qu'on connaît en bande dessinée, il y a une grosse plateforme qui s'appelle Isneo, qui fonctionne bien, où vous avez derrière notamment Média Diffusion, qui pilote un peu ça, où il y a beaucoup de contrats.
Oui, et puis Média Diffusion, du coup, c'est le Lombard, Dargo, Dupuis.
Cana, Urban Comics, et puis ça, c'est que pour la bande dessinée, hein, mais ils ont bien d'autres choses.
En sachant qu'en plus, ils s'arrangent aussi avec les autres éditeurs pour les histoires de contrat où ils rachètent, et c'est la plateforme Isneo qui... Tout à fait. Donc, pour l'instant, il y a cette forme-là. Il y a pas mal de... pas d'éditeurs, mais de groupements d'auteurs qui ont fait des autres tentatives en essayant d'utiliser le média internet d'une autre manière, notamment avec mélangeant bande dessinée, on va dire animation un peu, l'animation flash comme on peut retrouver, qui font des expériences qui sont plutôt pas mal. L'idée est chouette, après c'est toujours le problème de rémunération en fait, pour les auteurs, pour la forme. Internet, on sait que c'est l'univers du gratuit et que justement le côté financier a assez de mal à passer en fait. Enfin, c'est quelque chose de très très compliqué à gérer. Après, en bande dessinée, du coup, nous, on n'y voit pas grand mal. On suit un peu les nouvelles expériences, les choses qui évoluent, qui changent. Mais on propose pas, par contre, via notre site, d'acheter de la BD numérique. Parce qu'on ne voit pas trop l'intérêt. On a une boutique physique, on a du conseil à faire. En plus, c'est des bouquins. Souvent, que les éditeurs s'amusent, se font plaisir à travailler, à faire des jolis ouvrages. Et du coup, on travaille sur les deux plans, en fait, autant l'histoire, le contenu, que la forme et le fond.
Oui, que l'objet livre. C'est vrai que les lecteurs de bande dessinée, mais bon, les lecteurs en général, mais peut-être plus encore en bande dessinée, sont attachés à l'objet livre.
Oui, c'est clair, il y a une forme de léger fétichisme souvent et de grosses névroses des fois. Voilà. Non, mais après, pour ce qui est du numérique, très honnêtement, je pense que les libraires, et puis on le voit pour l'instant, ce dont on parle, c'est quasiment un non-marché en définitive. Je pense que pour l'instant, il n'y a rien de vraiment, vraiment pertinent. Et effectivement, je ne pense pas qu'on puisse parler réellement de menaces. Je pense que les libraires sont, à l'heure actuelle, plus embêtés par les ventes sur Internet que par le format numérique. Voilà. Là, les ventes sur Internet, c'est encore autre chose. Les parts de marché progressent d'année en année.
Oui, donc voilà, parce qu'après, il y a le numérique, mais aussi les outils numériques. Et vous, sur Internet, vous êtes très présent.
On est très présent, mais il faut dire qu'on a la chance de faire partie d'un groupement aussi, ce qui n'enlève strictement rien à l'indépendance de la librairie. Il y a un choix qui a été fait, mais comme des groupements ont déjà existé chez des généralistes, de se fédérer autour d'une coopérative au niveau des spécialisés BD. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, on fait partie de ce qu'on appelle le GLBD, le groupement des librairies de bande dessinée, dont le logo, l'enseigne, c'est Canal BD, qui est aussi le magazine qui est du coup distribué au sein de ces librairies-là. On garde une totale indépendance, si ce n'est qu'on a un travail en commun, c'est que beaucoup d'entre nous n'auraient pas eu les moyens de se payer un site internet. Et là, il existe un portail Canal BD à travers lequel, en fait, on peut accéder en fait, au site marchand et vitrine de chacune des librairies membres du réseau.
Oui, voilà, parce que du coup, dans le futur de la profession, on a forcément évoqué le numérique, parce que c'est vrai que c'est une question qui est souvent posée par les lecteurs ou par les non-lecteurs quand on dit qu'on est libraire. Ah, mais le numérique, comment ça se passait, etc. Mais dans le futur de la profession, il y a aussi toute cette question de la mutualisation. Donc, effectivement, des libraires qui se mettent en groupement. Donc là, c'est un groupement Canal BD. Mais il y a aussi un groupement de libraires de centre-ville qui s'appelle Electron Livre. Est-ce qu'on peut en parler un peu?
Alors ça, effectivement, on est plus sur le tissu local. Et c'est Terre de Légende qui est à l'initiative de la création d'Electron Livre. On a proposé tout simplement à certaines des librairies du quartier dont les spécificités étaient liées à d'autres domaines que les nôtres, donc je vais donner les noms hein, dans la foulée, mais de créer effectivement un réseau de mutualisation des moyens, que ce soit humain ou technique, et donc d'entraide, mais aussi de générer de l'événement en créant une transversalité en fait. Je crois qu'il faut jamais oublier que le livre, c'est avant tout un support pour raconter des choses. Alors qu'on soit dans la fiction, qu'on soit dans le documentaire, ce qu'on veut, mais en tous les cas, ces thématiques-là, on peut les aborder de manière totalement différente, pas que à travers la bande dessinée. Donc en fait, on travaille avec Terra Nova, qui est plutôt axée sur les sciences humaines, qui est une librairie très engagée. On travaille avec Olé Beaujour, qui est une librairie sur les arts du spectacle. On travaille aussi avec le Croque-Note, qui est une librairie musicale. Et on a aussi la librairie Cérébé qui est spécialisée dans la littérature policière, dans le fantastique, science-fiction. Voilà. Et après, on a quelques acquaintances aussi avec des gens. L'année passée, on a commencé à mettre un coup d'accélérateur. On espère être de plus en plus probant. On profite aussi des institutions pour essayer de lancer un gros projet commun qui viendra plus tard. On a la chance d'avoir vu éclore une licence à l'université Jean Jaurès, l'université du Mirail, qui est spécialisée sur la librairie. Donc on a des futurs libraires là. Et cette année, le projet Tutoré commun va tourner autour du montage d'un gros événement Electron Libre. Voilà. Et ça, c'est le
Super.
scoop.
Ça, c'est le scoop. On en parlera plus tard.
Thank you.
Vous êtes toujours à la librairie Terre de Légende, suite et fin de l'émission, une saison en librairie. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, les conseils aux lecteurs. Donc on a parlé déjà des petits coups de cœur qui sont un petit peu partout dans la librairie, Miam Miam et Ça tabasse pour dire qu'un titre vous a plu. Vous avez aussi des clubs de lecture, alors est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu ?
Une fois par mois, on réunit les lecteurs qui sont tentés. Et on leur propose en fait de venir avec un ouvrage qu'ils ont choisi et qu'ils ont envie, qui les ont marqués et qu'ils ont envie de partager, de faire partager aux autres. Voilà, l'idée c'est ça, sachant que nous-mêmes on vient, on parle d'un bouquin. Voilà. Alors peu importe que ce soit de la nouveauté ou pas. Voilà.
Donc ça c'est rigolo en fait, finalement du coup ce sont les libraires qui d'habitude conseillent, qui là demandent aux lecteurs de venir partager leur propre plaisir de lecture.
C'est exactement ça, surtout. Le côté aussi intéressant, c'est qu'on n'est pas forcément sur l'actualité. On est sur des choses qui peuvent toucher le lecteur plus personnellement. Et les libraires, ils participent aussi une part de la découverte, parce qu'on est toujours un peu surpris de ce qui peut ressortir justement chez certains lecteurs. Et ouais, voilà, c'est une découverte assez générale, parce qu'en plus, c'est pas fermé à un genre ou un style particulier. Tant que c'est de la bande dessinée, on accueille.
Et oui, parce qu'il y a tout ça aussi, il y a tous les livres du fond. Un libraire se doit d'être, évidemment dans l'actualité, on va voir ce qui sort au fur et à mesure. Mais donc, tu disais quand même, Jean-Pascal, 15 000 références à l'année.
Ouais, non, alors nous on a 15 000 références en stock. Après, pour ce qui est de la bande dessinée, on est situé depuis 2-3 ans, on est dans une fourchette de 5 à 6 000 nouveautés par an. Voilà, donc... C'est clair qu'il faut faire des choix subjectifs et drastiques.
Et donc, il y a le choix du fond. Donc, les livres qu'on va décider de garder, même s'ils sont parus depuis plusieurs années, et on se dit maintenant, celui-là, il faut absolument le garder en librairie. Est-ce qu'il y en aurait un, puisque là, on est dans la partie où on parle de livres ?
On a des piles, en fait. Voilà, en dessous des bacs. Et souvent, on met nos coups de cœur qui changent assez régulièrement, mais qui sont souvent là quasiment à l'année pour certains, et qui ne sont pas forcément des titres récents. Notamment, un des gros coups de cœur à la librairie depuis que je suis arrivé, c'était Un homme est mort, qui, de Étienne Davodeau, qui a toujours été plus ou moins en pile, que parfois disparaît mais juste quelques mois et qui revient toujours en fait.
N'oubliez pas, parce qu'un Davodeau en a chassé un autre en fait. Voilà.
Et c'est lequel qui a chassé
Alors, le dernier en date, c'est Cher pays de notre enfance. Voilà, qui est de la BD documentaire sur, on va dire, les heures un peu sombres de la gestion de la 5ème République. Voilà, très bon bouquin.
Étienne Davodeau, c'est aussi Les Ignorants, avec cette espèce de BD documentaire sur les vignobles français.
Et la bande dessinée.
C'est vrai.
Ouais. Mais pour reprendre en fait un exemple aussi, un titre pas récent, il y a Elmer de Jerry Alanguilan, donc un auteur philippin, édité par la maison d'édition Ça et Là, qui n'est pas du tout une actualité, mais en fait qui est arrivé naturellement en pile sous les bacs depuis plusieurs mois maintenant, qu'on voit régulièrement. C'est un peu une sorte d'ovni, et je pense en plus qu'il nous a convaincus à tous les trois. Ouais. Qu'on a tendance à conseiller un peu régulièrement, on y vient en fait.
Je pense de manière assez. Quand l'un le chasse de la pile, un autre le remet de toute façon. Voilà, c'est assez régulier. Ça fait partie des titres effectivement qui ne sont pas du tout connus du grand public et qu'on garde en pile. Les gens savent que généralement, dans les piles qui sont sous les bacs, ils peuvent trouver des choses qu'on essaie de faire vivre au long terme et dans lesquelles ils peuvent piquer aisément, que ce soit pour eux ou pour offrir.
Et du coup, Elmer, alors, de quoi ça parle ?
Alors Elmer, c'est un peu particulier parce qu'on va dire que l'idée de base peut paraître assez loufoque sur, les poulets ont acquis la parole, tout simplement, dans les années 70. Alors tout ça va être traité en fait avec la vue du fils de Elmer, justement, qui est un poulet assez, on va dire, rebelle, qui commence un peu à détester les humains. En fait, ils ne vivent pas en très bonne harmonie encore. Et il va trouver le journal de son père. Et celui-ci va lui raconter en fait toute l'évolution des droits des poulets depuis l'acquisition de la parole jusqu'à nos jours. En fait, c'est une métaphore de tout ce qui concerne la ségrégation, fait des minorités et des combats qu'ils ont dû faire justement pour avoir accès aux mêmes droits que les autres personnes, et là en l'occurrence que les humains. Donc c'est une fable assez... On est un peu dans une thématique science-fictionnelle, mais très axée sur le social, et c'est quelque chose d'assez étonnant. Pour quelque chose qui pourrait paraître assez drôle, finalement, c'est un récit extrêmement rude, en fait.
Ouais, c'est très dur. Ouais. Mais oui, c'est ça, ça parle de l'émancipation des peuples, c'est une vraie fable, exactement.
Bon, si vous avez une BD de l'été, là, par exemple, je sais pas, moi.
Une BD de l'été? Bon, il faut quelque chose d'un peu léger, alors, si je comprends. Mais bon, en tous les cas, c'est clair que... Alors, léger ou pas, moi, je dirais La Maison, quand même. On parlait des satabases, voilà. Ça, c'est le satabase de ces derniers mois, c'est La Maison de Paco Roca, qui est un auteur qui n'est pas encore énormément connu du public, même du lectorat traditionnel de bande dessinée, qui est quand même assez ouvert, hein, désormais. C'est un auteur espagnol qui a déjà été traduit deux fois, aux éditions Delcourt aussi, puisque effectivement là c'est en collection Mirage. C'est alors on parlait d'objets, hein, on a un petit format à l'italienne, mais qui vraiment se prête au découpage qu'a mis en place Paco Roca. Là, on parlait des formats disparates, je trouve que des fois il y a un manque de pertinence. Les auteurs, à mes éditions, sont un peu plaisir, mais il n'y a pas de raison d'être réelle. En l'occurrence, là, il a vraiment tout découpé comme si c'était des demi-strips. Alors, je parle des strips, donc ces fameux comic strips qu'on trouvait, les bandes telles qu'on les trouvait dans les journaux. Et après, ça raconte tout simplement les liens familiaux qui se tissent et qui se déchirent autour, en fait, de la maison familiale et de ce qu'on va en faire après le décès, en fait, des ascendants. C'est très beau.
Et donc, ouais, ce livre, j'avais vu qu'il faisait partie, parce que du coup, sur Internet, vous faites paraître vos sélections, et donc ça, c'est tous les mois. Alors, c'est très rigolo, parce que c'est une sélection qui s'appelle « Y'a bon, toi lire ». Alors, on est un peu dans le même registre que les Miam Miam et Satabas. Et puis, ça commence toujours, alors il y a toujours à peu près, je sais pas, on va dire 5 à 10 titres, vous avez pas de...
On met pas plus. Après, honnêtement... On s'est étonné nous-mêmes. Généralement, la fin du printemps, c'est une période un peu creuse. On est comme les généralistes. On est indexé à une espèce de saisonnalité. Il y a une rentrée littéraire en septembre, même quasiment au 15 août, on va dire, qui va courir jusqu'à quasiment aux premières semaines des achats de Noël. C'est vraiment un temps très fort de 4 mois. On ne souffle pas tellement que ça, parce qu'après, il y a le festival de la bande dessinée à Angoulême. Et donc, du coup, au mois de janvier, on rebelote, on remet la cavalerie. Et puis, ça se tasse. Jusqu'à arriver à l'été, tranquillement, où il y a quand même quelques sorties pour que les gens viennent quand même un petit peu en librairie. Mais là, on s'est étonné, parce que sans avoir ce qu'on appelle, nous, des énormes locomotives, c'est-à-dire des titres très grand public qui sont très attendus, il y a eu pléthore de petits titres vraiment chouettes, très intéressants à lire pendant ce printemps. C'est vraiment, ça a été très très dynamique, que ce soit chez les gros éditeurs comme chez les tout petits.
Et du coup, vous arrivez tous les mois à faire une petite sélection d'à peu près 10 titres. Alors, elle est toujours présentée comme ça. Voici la sélection purement subjective, arbitraire et impartiale de Terre de Légende.
C'est ça. Ouais, ben, je pense que les gens, ils viennent pas pour qu'on leur dise que tout est bien. Voilà. Alors, il y a souvent des choses assez rigolotes, c'est-à-dire que les gens viennent à côté du comptoir, et souvent ils me disent « Ouais, mais ça c'est bien ». Alors, évidemment, ils vont prendre un bouquin où il y a une étiquette dessus, Satabas ou Miam. Puis il m'en ressort un autre. Je dis « Mais oui, ça c'est très bien ». Ils disent « Mais en fait, à chaque fois que je vais prendre un bouquin, c'est très bien ». Je dis « Bah oui, mais alors choisissez pas ça, les étiquettes ». Je dis « Ça, c'est totalement subjectif ». Donc, oui, c'est vraiment ce qu'on aime. À savoir que des fois, on n'est pas d'accord entre nous, hein, malgré tout. Voilà.
Alors, est-ce qu'on peut parler peut-être, comme Fabrice n'est pas là, de son coup de cœur?
Ouais, alors Fabrice a eu un très gros coup de cœur, qu'on partage, hein, mais vraiment lui, il a bloqué dessus. Il y a un titre qui est paru chez Dupuis, de deux auteurs qui s'appellent Thomas Campi et Vincent Zabus, qui, à mon avis... sont des auteurs à suivre. Ils avaient déjà fait un premier titre chez Dargo qui s'appelait Les Petites Gens, qui était très chouette, qui racontait l'histoire d'un libraire dans un quartier qui faisait vivre en fait le quartier à travers le prêt de livres. Donc forcément, on parle de quelque chose qui nous interpelle, mais au-delà de ça, c'était très chouette. Il manquait quand même quelque chose. Ça sentait un petit peu ce que j'appellerais le péché de jeunesse, en fait, au niveau de la réalisation.
Et alors, le dernier morceau sur lequel on va se quitter, c'est ton choix en plus, Jean-Pascal.
Ouais, c'est en gros le morceau qui a lancé la rébellion à l'été 1976 à Londres. Et c'est pas les Clash, c'est pas les Sex Pistols, c'est le troisième groupe un peu moins connu, fondateur du punk anglais, mais qui a été un peu en avance sur eux. Le morceau, c'est le premier 45 tours de punk anglais qui existe, c'est les The Damned, c'est New Rose. Voilà. Et New Rose, je trouve qu'une nouvelle rose est arrivée en ville, c'était parfait pour Terre de Légende.
Bon, bah merci de m'avoir reçu à la librairie Terre de Légende, Yoann et Jean-Pascal.
Non, merci à toi.
Et du coup, on rappelle aux auditeurs, si vous voulez des bisous...
Ouais, on fait des bisous. Bon, faut quand même qu'on fasse gaffe. Hein. Voilà.
Vous serez très bien accueillis à Terre de Légende.
Ouais.
En plus, c'est l'été.
Vous restez ouvert tout l'été, là?
Tout à fait, oui. Vu qu'on est trois, on se remplace, on se relaie. Voilà.
On a la chance de pouvoir se relayer, de prendre de vraies vacances avant la rentrée. Et ça, c'est bien.
Et donc la librairie, elle est ouverte du lundi au samedi?
Du lundi au samedi, 10h-19h, non-stop, à part quelques petits écueils de temps en temps. Au cœur de l'été, ça peut arriver. On se fait bassement inviter par un éditeur au restaurant, donc on n'est pas là.
Oh zut alors.
Oh zut, c'est terrible. Voilà.
À bientôt.
À bientôt.